François Helbron, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Vous êtes professeur associé à Sciences Po et vous avez choisi ce soir de nous parler littérature, de guerre et d'engagement. Et dans les temps qui courent, c'est plutôt une bonne chose. Alors, vous souhaitiez rendre hommage à trois combattants juifs, héros de guerre, au travers de deux livres et d'une conférence. Alors, le premier est Bernard Faul, dont l'ancien ministre Hervé Guémard a publié une biographie très émouvante, Un homme en guerre, c'est aux éditions L'Équateur.
Tout à fait, Pierre. J'ai rencontré Hervé Guémard sur un autre sujet qui est lié aussi aux Juifs. Parce que Hervé Guémard est aujourd'hui, dans ses nombreuses fonctions, président de la Fondation Charles de Gaulle. Et la Fondation Charles de Gaulle a lancé un projet de créer une conférence sur De Gaulle, Israël et les Juifs. Et d'ailleurs, cette première conférence a eu lieu hier soir au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, avec des excellents historiens que vous connaissez, Denis Charbit, Sami Cohen, Perrine Simon-Naoum et Philippe Boukhara. Et ce sera un colloque qui aura lieu l'année prochaine, à la fois en France et en Israël. Et donc, j'ai rencontré Hervé Guémard à cette occasion. Et il m'a dit, apprenant que j'étais aussi vice-président du Mémorial de la Shoah, il m'a dit, est-ce que vous avez entendu parler de Bernard Faul? Non, je ne sais pas qui c'est. Il m'a dit, j'ai écrit une biographie de Bernard Faul. Et alors, il m'a donné ce livre que j'ai lu, que j'ai même dévoré. J'ai découvert un personnage tout à fait étonnant, riche, et donc nécessitant une biographie. Bernard Faul, en fait, a eu 4 vies. Il est né à Vienne en 1926 dans une famille juive où il a eu une enfance tout à fait normale jusqu'à l'Anschluss de 1938, une famille juive bourgeoise éclairée. Et ils ont fui l'arrivée des nazis, ils se sont réfugiés à Nice. Et il avait 12 ans quand il est arrivé à Nice. Et pendant la guerre, hélas, sa mère a été arrêtée et déportée, son père a été arrêté, torturé par les Gestapo et tué. Lui a réussi à se sauver et sa mère a abandonné sa petite sœur pour qu'elle soit aussi sauvée. Il a rejoint la résistance à l'âge de 16 ans et il a rejoint l'organisation juive de combat à Toulouse et où il a participé à de nombreuses actions et de nombreux combats. Et après que les réseaux de Toulousains ont été un peu démantelés, il a rejoint la région de Savoie. Et c'est là un peu le lien avec Hervé Guémard, parce qu'on se dit pourquoi Hervé Guémard s'intéresse à ce type de personnage, parce qu'en fait, il a découvert que dans ces villages de sa Savoie, il y avait ce personnage tout à fait étonnant. Et là, il a été absolument héroïque, il s'est engagé en résistance, il s'est battu. Après la libération de la France, il a rejoint la 27e division alpine et il a continué à se battre jusqu'en Allemagne, jusqu'à la libération. Et quand la guerre est finie, il est toujours sous les drapeaux français, il est décoré, il est un héros. Mais il a l'avantage d'être assez polyglotte, il parle évidemment parfaitement allemand, ayant été élevé comme jeune autrichien, et il devient traducteur auprès des services américains au procès de Nuremberg. Et à ce moment-là, il décide d'étudier en France, il décide d'étudier aux États-Unis, et il devient le plus grand spécialiste, et c'est pour ça qu'il est très très connu aux États-Unis, c'est le plus grand spécialiste de la guerre du Vietnam.
Incroyable.
Et il fait une thèse, une toute première thèse dans les années, début des années 50, sur la guerre du Vietnam. Et comme c'est quelqu'un qui a vécu la guerre et la résistance, il veut aller sur le terrain. Et il va, première fois en 1953, voir la guerre d'Indochine. Et il comprend très bien que la guerre d'Indochine va être perdue. Que les Français, malgré l'héroïsme des troupes qu'il suit et qu'il comprend, ça va être perdu. Et puis il y retourne de nombreuses fois au moment où l'intervention américaine devient déterminante. Et il a écrit un certain nombre de livres remarquables sur la guerre du Vietnam, notamment un livre très connu qui s'appelle « La Russe en joie », et où il décrypte en fait la stratégie militaire et politique américaine qui va vers l'échec. Et finalement, Bernard Faul, mort à peine à l'âge de 40 ans, 41 ans, en sautant sur une mine le 21 février 1967. Et ce qui est passionnant dans ce livre, et je veux rendre hommage à Hervé Guémard, c'est qu'Hervé Guémard s'est complètement identifié à ce personnage. Il est allé enquêter à Vienne, à Nice, à Washington, en Galicie, dont la famille maternelle de sa mère, de la mère de Bernard Faul, était originaire. Et il a retracé aussi ce qui est arrivé à toute cette famille par la déportation et par les crimes. Et il s'est complètement identifié à son personnage et il s'est écrit dans une langue superbe, très riche. Et donc c'est publié, c'est un livre qui est sorti il y a 2 ans, c'est publié à l'édition Équateur, ça s'appelle « Un homme en guerre, voyage avec Bernard B. Faul ». Et c'est absolument passionnant et ça rend hommage à la fois un résistant juif de très belle ampleur et d'un très beau courage, membre de l'organisation juive de combat, mais aussi quelqu'un de très lucide qui a alerté très tôt sur l'impasse des troupes françaises et de la politique française et américaine au Vietnam, puisque lui, en fait, était, par la résistance et par l'organisation de jeux de combat, un spécialiste de la guérilla et voyait l'efficacité de la guérilla.
Alors, second ouvrage, c'est celui de Jean-Mathieu Boris, au travers de ses mémoires, combattant de la France libre.
Alors là aussi, je suis tombé sur ce livre, c'est un peu par hasard, là, c'est pas quelqu'un qui me l'a donné, je l'ai trouvé à la librairie du Mémorial de la Shoah. Et le titre m'a intrigué, la photo aussi, on voit un homme jeune, élégant, avec les ailes de parachutiste sur la poitrine, et c'est écrit « Combattant de la France libre ». Donc quand on voit une belle couverture, vous tournez, vous regardez la quatrième de couverture, et vous lisez une citation de Jean-Louis Crémieux-Briac, qui est quand même un compagnon de libération, un des grands historiens de la France libre, qui écrit « Jean-Mathieu Boris est l'un des héros de l'épopée militaire de cette France libre hétérogène, mais unie par une passion qui en fait la plus grande aventure collective française du XXe siècle ». Alors, Jean-Mathieu Boris, alors c'est un nom connu parce qu'il y a Georges Boris, Georges Boris c'est un cousin de son père, Jean-Mathieu Boris a 19 ans en juin 40, il rejoint Londres tout de suite, le 1er juillet, il est un des tout premiers Français libres à arriver à Londres, il s'engage dans ce qu'on appelle les Free French Forces, donc les forces françaises libres françaises. Il devient jeune officier, aspirant, et il est nommé dans un régiment d'artillerie, et il va faire partie de la division française libre du général Koenig, et notamment, il va être un des héros de Birakem. Mmh. Et il raconte, c'est lui qui raconte ce livre, il l'a écrit en 2012, il avait à ce moment-là 92 ans, il écrit ses mémoires, et c'est très émouvant, et j'aimerais vous lire juste trois passages intéressants, justement, pour faire le lien avec la France libre et les Juifs. D'abord, dans la préface de Jean-Luc Crémieux-Briac, il donne des chiffres que je ne connaissais pas. Sur 253 Français identifiés qui se sont embarqués du 21 au 25 juin comme Jean-Mathieu Boris à Saint-Jean-de-Luz ou à Bayonne, sur des cargos polonais, 35 au moins sont juifs. Et 20 d'ascendance nobiliaire. Donc c'est-à-dire sur 253 Français, 35 étaient juifs, c'est-à-dire plus de 15%. Jean-Luc Crémieux-Briac ajoute « Sur les 27 volontaires que compte le premier peloton d'élèves aspirants d'artillerie de la France libre, 8 sont juifs. » Donc un tiers des élèves aspirants pour être officiers d'artillerie sont juifs en juillet 40. Autre passage du livre, là, c'est, je vais citer Jean-Mathieu Boris, il retrouve à Londres très tôt un de ses amis d'enfance s'appelle Jean-Pierre Rosenwald, et ils sont tous les deux à Birakem. Jean-Pierre Rosenwald se fait tuer à Birakem. Le soir, la bataille s'est apaisée, nous enterrons Jean-Pierre enveloppé dans une couverture. Après avoir réuni 9 autres Israélites, le lieutenant Daniel Dreyfus Duca récite la prière des morts, le Kaddish, et alors qu'un lourd nuage recouvre lentement Birakem, les tirs d'artillerie reprennent, mais aucun de nous ne cherche à s'abriter. Donc c'est très très émouvant. Et puis un dernier passage, qui est un peu un testament, il a 92 ans. Cela dit, et tout en confirmant que je ne le crois en aucun dieu, je souhaite néanmoins toujours par fidélité que soient récitées sur ma tombe les prières hébraïques dont les cadences escortèrent vers leur dernier repos tout le temps de mes ancêtres. Je ne demande pas de rabbin, je demande seulement que soit dit un kaddish, comme celui qui a accompagné mon ami, l'aspirant Jean-Pierre Rosenwald, le 6 juin 42 dans sa tombe sous le sable de Birakem. Alors j'ai trouvé aussi un parallèle, j'ai lu ces deux livres un peu par hasard en même temps, un parallèle puisque c'est une forme d'héroïsme, une forme d'engagement dans la France libre, mais aussi dans les deux cas c'est une forme d'humanité. Hervé Guémard et Bernard Faul, son héros, rend hommage en fait au peuple du monde entier, à l'universalité, aux Américains, aux Indochinois. Dans Les combattants de la France libre, Jean-Mathieu Boris rend hommage à tous ces combattants qui vont être à ses côtés, notamment dans la division française libre qui se bat à Birakem, qui sont souvent des régiments coloniaux, comme on disait à l'époque, maintenant qu'on dit maintenant des régiments de marine, mais des régiments coloniaux où il y avait des Africains du Nord, des Asiatiques, des Néo-Calédoniens qui se sont venus se battre pour une idée de la France libre. Et je pense que dans cette époque aujourd'hui où on a tendance à se refermer sur un nationalisme étriqué, ce patriotisme universaliste a cette valeur et que deux Juifs les portaient ne m'étonne pas.
Et puis, troisième rendez-vous, alors cette fois c'est une conférence qui va être consacrée à Joseph Kessel, ça aura lieu dimanche prochain, le 21 novembre, à l'occasion du Salon du Livre du Judaïsme en Mouvement, avec ce thème « Kessel, l'ami sioniste », une conférence d'ailleurs, François Hellebrun, que vous allez animer en partie.
C'est le lien, je dirais, avec les deux autres, c'est aussi, comme tout le monde le sait, Joseph Kessel était un combattant héroïque de la Première Guerre mondiale, mais aussi un combattant héroïque de la Seconde Guerre mondiale, grand résistant. auteur d'un très beau roman, L'Armée des Ombres, sur la Résistance, et puis du Chant des Partisans, l'hymne de la Résistance. Mais dans le cadre du Salon du Livre de Judaïsme en Mouvement, qui a lieu dimanche 21 novembre de 14h à 19h au 11 rue Gaston de Caillavé dans le 15e, pardon, il y aura un certain nombre d'écrivains qui seront là. Je vais en citer quelques-uns qui vont dédicacer leurs livres. Il y aura plus d'une trentaine d'écrivains, je vais citer quelques noms. Anne Berest, Evelyne Bloch-Dano, Ariane Bois, Christophe Donner, Delphine Horviller, Rachel Kahn, Richard Malka, Dominique Missika, Colombe Schneck, Anne Sinclair et tant d'autres. Et comme chaque année pour le Salon du Livre, il y a une conférence donnée sur un écrivain et son rapport au judaïsme ou à Israël. Et cette année, le choix de l'écrivain est Joseph Kessel. Et le titre donné à cette conférence que je vais co-animer avec mon ami Hubert Boukara, qui a été un ami de Joseph Kessel, qui l'a bien connu. Le titre de cette conférence est Kessel, la missionniste. Et je vais revenir... Hubert Boukara va surtout parler de son amitié, de ses liens avec Kessel, du rapport de Kessel avec le judaïsme et la judaïté. Et moi, à travers l'œuvre de Kessel, je vais essayer de montrer, c'est assez facile, que de 1926, quand il avait 27 ans, jusqu'à 1979, sa mort... Kessel est devenu un amoureux d'Israël et un militant sioniste actif à travers son premier livre « Terre d'amour » publié en 1927, jusqu'à la coordination d'une revue mensuelle qui était absolument admirable, qui s'appelait « Les combats d'Israël », dont il était le directeur de la rédaction dans les années 72-75. Il s'est engagé aux côtés d'Israël, concrètement, de manière militante, de manière journalistique, par ses grands reportages. Il a, en 1948, obtenu le visa numéro 1 pour Israël. C'est le premier correspondant de guerre qui arrive au début de la création de l'État d'Israël. Et quand il arrive à Haïfa, parce qu'il atterrit à Haïfa, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit pour atterrir, on lui donne le visa numéro 1. Je raconterai tout ça. Donc, cette conférence a lieu ce dimanche 21 novembre de 18h à 19h. Et donc, j'invite tous vos éditrices et auditeurs que le sujet intéresse à nous rejoindre.
François Heilbronn, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom et on se retrouvera bien évidemment très bientôt dans une quinzaine de jours. Bonsoir.
Bonsoir Pierre, merci.